Et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI, les midi et demi, temps universel, 13h30 à Paris et Kinshasa, c'est l'heure d'Afrique Midi avec vous Nicolas Brousse.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Les combats ont repris ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo. Le conflit avec le M23 entraîne des risques grandissants pour la population, alerte Human Rights Watch, alors que des centaines de milliers d'habitants ont déjà dû fuir. Résultat, situation humanitaire catastrophique à Goma. Aucun signe d'apaisement malgré les exhortations de la communauté internationale. L'Union européenne laisse entrevoir la possibilité de sanctions contre les responsables du maintien du conflit armé. C'est notre dossier que nous allons développer notamment avec Pauline Azidi, notre envoyée spéciale permanente à Kinshasa, et notre éditorialiste Jean-Baptiste Placa. À suivre également, quasiment un an de détention dans une prison militaire pour l'une des figures de la société civile burkinabé. Les avocats de Maître Guy Hervé Cam dénoncent une détention provisoire arbitraire et même illégale puisque supérieure à 8 mois. Le musée national de Yaoundé célèbre la civilisation Sao Kotoko, l'une des plus anciennes d'Afrique, qui a droit à la 6e édition de son festival. L'Arena Paris-Bercy célèbre le basket américain. Les étoiles de la NBA se délocalisent cette semaine. L'occasion de revenir à la maison pour Victor Wembanyama, mais pas de faire du tourisme. D'autant que son équipe affronte ce soir celle de la star montante camerounaise de la discipline, Pascal Siakam. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue. On tourne ensemble la première page. Et nous partons pour la RDC où la situation sécuritaire est donc toujours tendue dans les environs de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Les combats opposent depuis plusieurs jours l'armée congolaise et ses alliés au M23 soutenu par le Rwanda. Et après la mort annoncée du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirumani, lors de combats, hier, le président Félix Tshisekedi a tenu un conseil de défense. Il a demandé à ses responsables militaires de repousser l'agresseur loin de Goma. Pauline Azidi, vous êtes notre envoyée spéciale permanente en direct de Kinshasa. Paulina, vous nous confirmez que les affrontements ont repris aujourd'hui?
Oui, ce matin, les témoignages font état de détonations toujours entendues dans les environs de Goma, selon nos informations. Si la situation semble s'être calmée au nord, côté Kibumba, les affrontements violents sont en cours sur l'axe de Sake. Durant la journée de vendredi, les combats ont été intenses sur ces deux fronts, mais les lignes n'ont quasiment pas bougé. Le verrou sécuritaire est solide, confié hier soir un responsable militaire congolais, surtout au nord, ajoutait-il, où le terrain est plus propice à l'armée congolaise et ses alliés. Des combats qui ont fait des victimes. Hier, on a appris la mort du gouverneur du Nord Kivu, vous le disiez, le général-major Chirimwani, mortellement blessé jeudi. La MONUSCO engagée dans les combats fait état de 9 casques bleus blessés. Pas de bilan officiel pour l'armée congolaise.
Et Paulina, cette situation fait monter d'encore un cran une tension sécuritaire à Goma, déjà saturée de déplacés, et ce depuis de longs mois.
Selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis le début du mois. C'est le double des chiffres annoncés la semaine dernière. De nouveaux déplacés qui ont pour beaucoup rejoint Goma, où il y avait déjà plus de 600 000 personnes dans les camps environnants. Les hôpitaux sont saturés par les blessés, des militaires mais aussi des civils. Pour la structure de Ndosho, le CICR fait état de plus de 250 patients pour une capacité de 140 lits. Il n'y a quasiment plus d'électricité dans la ville après que les combats ont fait des dommages sur deux lignes d'alimentation dans le Rutshuru et Calais, et l'approvisionnement en eau est aussi difficile.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa, vous venez d'en parler. Goma, chef-lieu du Nord Kivu, se retrouve plus que jamais sous pression. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont appelé hier leurs ressortissants à quitter la ville. Human Rights Watch alerte contre des risques grandissants pour les civils de la région, pris en étau par les deux fronts. Autant de futurs déplacés potentiels, alors qu'à Goma, la situation humanitaire est tout simplement déjà catastrophique. C'est ce que nous confirme Manenji Mangundu, directeur pays de l'ONG Oxfam. Il a été joint par Alexandra Branjon.
Les gens sont visiblement fatigués, ils ont faim, ils n'ont pu prendre que très peu de choses avec eux dans leur fuite. Nous essayons de leur apporter non seulement de la nourriture, mais des conteneurs et des couvertures pour qu'ils puissent se protéger. Ces déplacés qui arrivent sur Goma ont besoin de tout. Ils ont été déplacés du Masisi, sont descendus sur Mwezo et Minova. Quand les combats ont éclaté à Minova, ils ont dû se déplacer à nouveau. Ils sont vraiment en mauvais état, physiquement et psychologiquement. C'est pour cela que j'en appelle à la communauté internationale. Il faut que les deux parties discutent. Il faut pousser pour une résolution de ce conflit. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu maintenant, pas demain. Et en même temps que ces efforts diplomatiques, nous avons besoin de financement. Je comprends qu'il y a un problème de financement, qu'il y a d'autres crises sur la planète, mais la crise dans ce pays semble vraiment avoir été oubliée. Il nous faut de l'argent maintenant pour que les gens puissent au moins manger un repas par jour.
À 14h35, heure de Goma, plusieurs membres de la communauté internationale condamnent la dernière offensive du M23 et la menace que les rebelles font peser sur la capitale provinciale. L'Angola, médiateur dans cette crise, demande une nouvelle fois à toutes les parties de rejoindre la table des négociations. Quant à l'Union européenne, elle se dit profondément préoccupée par l'escalade du conflit et pointe la responsabilité du Rwanda. Guillaume Thibault, l'UE ne va pas jusqu'à utiliser le terme de sanctions dans son communiqué, mais elle prévient qu'elle prendra ses responsabilités si les combats se poursuivent.
Fermeté et pression diplomatique. Dans son communiqué diffusé au cœur de la nuit de vendredi à samedi, l'Union européenne vise directement le Rwanda qui doit, je cite, cesser son soutien au M23 et se retirer. L'UE indique ainsi condamner fermement la présence militaire du Rwanda en RDC, la considérant comme une violation flagrante du droit international. Pour évoquer les menaces éventuelles, il faut aller au dernier paragraphe de ce communiqué. L'Union européenne examinera tous les outils à sa disposition afin de demander des comptes aux responsables du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC. Poursuite judiciaire, gel des avoirs, interdiction de circuler sur le territoire européen. L'UE ne donne aucune précision sur ces éventuelles mesures restrictives qui touchent déjà 31 personnes, des éléments du M23, des militaires congolais et des membres de milices. Les premières sanctions remontent à 2016. Et si elles pointent en premier lieu les autorités rwandaises, l'instance européenne exhorte également celle de RDC à cesser toute coopération avec les FDLR et d'autres groupes armés. L'Union européenne réaffirme enfin son soutien total et inébranlable au processus de Luanda.
Précision et décryptage en direct de Guillaume Thibault. Et bien sûr, ce dossier RD Congolais se suit à toute heure, quand vous le voulez, sur notre site internet rfi.fr. Après avoir été arrêté une première fois il y a pile un an, Maître Guy Hervé Kam, ténor du barreau et l'une des grandes voix de la société civile burkinabé, est toujours retenu à la prison militaire de Ouagadougou. Une détention qualifiée d'arbitraire par son collectif d'avocats, alors que les autorités burkinabées lui reprochent sa participation présumée à un complot. Ses avocats, eux, estiment que Maître Guy Hervé Kam a été privé de sa liberté en violation de ses droits, comme ils l'ont rappelé cette semaine encore. Maître Saïd Larifou est comorien et membre du collectif.
Maître Kam est très respectueux des institutions, notamment judiciaires de son pays, étant avocat. Il est respectueux également de toutes les institutions de son pays. Il est très attaché aux valeurs de son pays. Donc, que ça soit retenu par tous que Maître Kam n'est en conflit contre personne. Ça fait déjà bientôt un an que notre client n'a pas été confronté à un juge et que ses demandes répétées pour être entendues n'ont jamais fait l'objet d'aucun examen. La législation en vigueur indique clairement que la détention provisoire ne doit dépasser 8 mois. Et ça fait déjà un an qu'il n'a pas été attendu. Il s'agit de ce fait d'une détention qui ne repose sur aucune décision, sur aucune base légale. Cette détention nous semble arbitraire, contraire aux textes en vigueur au Burkina Faso et contraire aux différents engagements internationaux signés par le Burkina Faso également. Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui pour quel motif juridique notre client est retenu et détenu à la maison d'arrêt.
L'avocat Saïd Larifou, joint par David Baché. Au Kenya, c'est une autre arrestation qui suscite beaucoup de réactions, celle-là depuis jeudi après-midi. Alors qu'elle venait consulter, Grace Njokumulei, 61 ans, a été interpellée dans un hôpital de Nairobi pour officiellement trouble à l'ordre public. Les autorités lui reprochent d'avoir manifesté au sein du ministère de la Santé pour protester contre la réforme de l'assurance maladie. Face à l'émotion suscitée, elle a été relâchée sous caution en attendant son audition. Et Gaël Alex, les organisations de la société civile dénoncent une nouvelle tentative de museler toute contestation.
C'est l'ancien gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, qui a payé la caution de Grace Njoki Muley. La société kényane du droit s'est exprimée, qualifiant cette arrestation de persécution contraire à la constitution et à l'état de droit. Dans un communiqué conjoint, Amnesty International, l'association médicale du Kenya et le groupe de recherche sur la réforme de la police ont fait part de leur indignation. Se battre pour un meilleur système de santé n'est pas un crime. Pour l'opposante Martha Karua, les charges retenues contre Grace Njoki Muley sont destinées à décourager les Kenyans de demander des comptes. Cette arrestation intervient dans un contexte de forte tension avec les forces de l'ordre. Depuis les manifestations antigouvernementales de juin, la société civile dénonce des arrestations arbitraires et des disparitions forcées. La semaine passée, c'est un pêcheur qui a disparu dans le comté de Nakuru, au centre du pays. Il a été aperçu pour la dernière fois aux mains d'agents des services de la faune. L'Institut médico-légal indépendant, une organisation de la société civile, a déposé jeudi une plainte auprès de la haute cour du comté. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Ça n'est pas le conflit le plus médiatisé, mais la guerre civile au Soudan se poursuit. 30 personnes tuées dans une attaque de drone contre l'un des derniers hôpitaux en activité à El Fasher, dans la région du Darfour. Une attaque qui a eu lieu hier soir. Les urgences de l'établissement saoudien ont été détruites. Au Nigeria, le groupe armé Lakurawa, considéré comme une nouvelle menace sécuritaire pour le nord-ouest du pays, il est désormais classé terroriste et totalement interdit par une cour de justice d'Abuja. Lakurawa, qui multiplie les incursions au Nigeria depuis 6 ans, est devenu plus agressif encore depuis quelques mois et a étendu son territoire au-delà de la zone frontalière avec le Niger, Lisa Fabian.
La justice nigériane a officiellement déclaré que les activités de Lakurawa sont illégales n'importe où au Nigeria, mais particulièrement dans le nord-ouest et le centre-nord du pays. C'est le ministre de la Justice qui a déposé cette demande, alors que les autorités s'inquiètent depuis début novembre de la résurgence du groupe Lakurawa, pourtant présent depuis au moins 6 ans dans la zone frontalière entre le Niger et le Nigeria. D'abord chargé de protéger les communautés locales des attaques répétées des gangs armés, les membres de Lakurawa sont devenus plus agressifs dernièrement. Les chercheurs estiment qu'ils ont des liens avec les djihadistes et qu'ils entendent établir un califat dans la région. L'influence de Lakurawa s'étend désormais plus au sud de l'état de Sokoto, mais également dans la région voisine de Kebbi et jusque dans l'état de Zamfara, des zones désertées par l'état nigérian, mais aussi par les autres groupes armés. La justice nigériane a souligné que Lakurawa correspond aux critères établis par la loi sur la prévention du terrorisme. Cette définition permet des sanctions plus sévères pour les membres présumés du groupe, mais aussi pour leurs informateurs et toute personne leur fournissant une aide logistique.
Lisa Fabian qui a développé ce dossier sur RFI.fr. Il est 13h42 à Yaoundé et à Paris. D'abord direction Yaoundé, la civilisation Sao Kotoko est l'une des plus anciennes d'Afrique après celle de l'Égypte. Elle méritait donc bien son festival dont la 6e édition se tient en ce moment au Musée National avec des représentants venus du Cameroun mais aussi du Nigeria, du Tchad et du Ghana pour célébrer un héritage commun. Reportage à Yaoundé de Richard Onanena.
Et pour la réception des visiteurs ordinaires, c'est
certainement... Abakar fait la visite guidée d'une case traditionnelle Kotoko, une maison en terre cuite de forme circulaire dans laquelle on retrouve un lit incrusté, un coin cuisine et ses ustensiles d'argile, un grenier, mais pas que.
Ici, c'est les canaries d'eau. Quand c'est dans la cour, on y met de l'eau à boire.
Construite au village du festival, dans l'esplanade du musée national, la case Kotoko attire des centaines de curieux. Joël Ginkam est ravi de la découverte.
Et ça nous permet aussi de voir les outils et les instruments de la vie familiale dans un espace culturel comme celui-là.
Le son des trompettes traditionnelles et des tambours rythme les allées venues des sultans, les rois des communautés présents au village du festival. Dans les stands, on peut apercevoir des armes forgées, des pirogues de pêcheurs traditionnels, des produits de beauté et les coiffures qu'abordent les femmes Kotoko depuis des millénaires. C'est le premier regroupement des Kotoko depuis plus de 10 ans. Sa Majesté Mahamat Abba II, sultan de Kousséri, se réjouit de cette nouvelle communion entre descendants du Sao, même éloignés de leurs terres ancestrales.
Nous avons décidé aujourd'hui de célébrer nos anciens ici à Yaoundé. Quand on parle de Kotoko, il faut déjà penser au Sao. C'est grâce à eux que les parents ont pu donc bâtir cet empire Kotoko fêté aujourd'hui.
Le festival regroupe des milliers de Kotoko du Cameroun, Tchad, Nigeria et même du Ghana. Plusieurs notables de ces différents pays ont été anoblis au cours du festival. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
La tête à Yaoundé, les jambes à Paris qui vit au rythme du basket avec les NBA Paris Games à l'Accor Arena de Bercy. La grosse star, c'est le français Victor Wembanyama avec ses San Antonio Spurs qui affronte ce soir les Indiana Pacers emmenés par une autre star montante de la discipline, le Camerounais Pascal Siakam. Après une défaite jeudi, son équipe joue la revanche ce soir et le match s'annonce électrique. À 30 ans, le natif de Douala est de plus en plus respecté dans ce qui est la plus grande ligue du monde, Victor Missistrano.
Il a le potentiel pour faire grandir le basket africain en général, c'est Victor Wembanyama qui le dit.
Il joue en équipe nationale, Siakam ? Non ? Comme j'ai toujours dit, si je vais jouer pour une nation, c'est le Cameroun. Jusqu'ici, ça n'a pas pu être possible. Mais bon, ouais, je suis Camerounais.
Pascal Siakam ne choisira pas un autre pays comme Joel Embiid, champion olympique avec les États-Unis l'an dernier. Georges Eddy, voix de la NBA pour la chaîne Canal Plus Afrique, s'étonne du manque de reconnaissance accordé à Siakam par rapport à son compatriote.
On devrait parler autant de Pascal. C'est un des joueurs sous-estimés actuellement dans la NBA. Au début de sa carrière, il était quasi inconnu. C'est le génie du club de Toronto d'avoir trouver cet oiseau rare.
L'oiseau a pris son envol pour devenir champion NBA avec Toronto en 2019 et disputer deux fois le match des étoiles, le All-Star Game. Désormais, le Camerounais fait le bonheur des fans d'Indiana. Maillot sur le dos et gigantesque casquette des Pacers sur la tête. Jimmy est venu du Wisconsin pour assister aux deux matchs à Paris.
Pascal est génial. Il n'est arrivé que l'an dernier, mais il a tout de suite été très constant. Il travaille dur et fait de bons matchs. C'est aussi un leader du vestiaire, donc nous sommes ravis de l'avoir.
En bon leader, Pascal Siakam a prévu de remobiliser son équipe, pas assez combative selon lui, lors de la défaite de jeudi.
Victor Missistrano à Bercy, où l'heure de la revanche sonnera à 17h, temps universel entre les Spurs et les Pacers. 17h TU, c'est-à-dire 18h heure de Paris, où il est 13h46.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 25 janvier, merci de rester avec nous pour la partie magazine dans laquelle on va continuer à parler de la situation dans l'Est de la RDC. Elle fait la une de Jeune Afrique et c'est l'événement marquant de la semaine de notre éditorialiste Jean-Baptiste Placat. Et puis on cédera pour terminer aux sirènes, le mot et son histoire, chronique de Lucie Bouclou. La une de JA sur les combats donc dans l'Est de la RDC avec Romain Gras, journaliste à Jeune Afrique, chargé de la RDC et de la région des Grands Lacs. Il vous répond, Catherine Poté.
Bonjour Romain.
Bonjour Catherine.
Les rebelles du M23 poursuivent donc leur progression dans le Nord Kivu. Peut-on dire aujourd'hui que la ville de Goma est directement menacée ?
Géographiquement, c'est indéniable. Ça fait plus d'un mois que la pression militaire s'est accentuée sur Goma, que les combats se sont multipliés sur plusieurs axes. Des combats qui ont déplacé plus de 237 000 personnes de plus à la mi-janvier. Et désormais, ce qui inquiète, c'est la percée des rebelles sur Sake, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le dernier verrou sur la route de Goma, parce que la cité se situe à une vingtaine de kilomètres. Et le 23 janvier, les rebelles ont poussé pour y occuper des positions, ce qui menace directement la ville de Goma, qui, pour rappel, était déjà tombée en 2012 lors de la première offensive du M23. Et la perte de Goma serait évidemment une perte très symbolique pour les autorités, notamment parce que à la sortie de la ville se trouvent les dernières lignes de défense mises en place par les autorités, avec l'armée congolaise, ses groupes alliés armés locaux, les soldats de la MONUSCO, mais aussi ceux de la SADC.
Dans ces conditions, Romain Gras, la diplomatie a-t-elle encore ses chances ? La perspective d'un dialogue ou d'un compromis est-elle réaliste ?
C'est très compliqué parce qu'on est dans une sorte de bras de fer aujourd'hui sur cette question de dialogue. On est un peu face à un impossible compromis entre la RDC et le Rwanda, au sens où Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se rencontrer le 15 décembre dernier à Luanda, que cette rencontre a finalement été annulée parce que le président rwandais n'est pas venu. Il a reproché à son homologue de refuser de s'engager dans un dialogue direct avec le M23, ce que la RDC considère en retour comme une ligne rouge. Et si vous voulez, Kinshasa n'envisage un dialogue avec le M23 que s'il était organisé avec tous les autres groupes armés, ce qui reviendrait en quelque sorte à noyer les éventuelles revendications des rebelles. Donc on est dans une impasse totale sur le plan de cette médiation, et c'est en quelque sorte cette impasse qui a contribué à ouvrir la voie à l'escalade militaire qu'on constate aujourd'hui.
Romain Gras, quelle est la position de la communauté internationale ? Est-ce qu'une relance de la médiation de l'Angola est envisageable ? Est-ce que le retour de Donald Trump va changer la donne ?
C'est difficile à envisager pour l'instant une relance de la médiation angolaise, même si l'Angola l'espère. Le président Lourenço est venu en France à la mi-janvier. Il a appelé aux côtés d'Emmanuel Macron à une reprise du dialogue au plus haut niveau. Maintenant, il y a la réalité du terrain militaire dont on vient de parler et aussi la réalité diplomatique, au sens où, après être passé plutôt proche d'une rencontre, les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, n'ont cessé de rivaliser d'invectives ces derniers jours. Maintenant, il y a deux échéances qu'il faut prendre en compte. Mi-février, à l'issue du sommet de l'Union africaine, le président Lourenço prendra la présidence tournante de l'organisation continentale, ce qui pourrait l'amener à redoubler d'efforts dans cette médiation. Et de l'autre, vous l'avez dit, il est arrivé au pouvoir de Donald Trump, dont on ne sait pas quel sera le degré d'investissement dans ce conflit, sachant que l'administration Biden avait été assez prompte à épingler le Rwanda pour son rôle dans ce conflit.
Merci Romain Gras. Je rappelle que cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Romain Gras répondait aux questions de Catherine Potté. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nicolas Brousse.
On continue à parler avec vous de la RDC. Pourquoi donc, Jean-Baptiste, les dirigeants congolais peinent-ils autant à mobiliser la communauté internationale, y compris en Afrique, en faveur de sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, alors que la collusion entre Kigali et le groupe rebelle semble attestée par les Nations Unies ?
À l'évidence, aucun pays ne voudrait se brouiller avec Paul Kagame pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Non pas qu'il conteste la responsabilité du Rwanda dans cette rébellion, mais il se trouve que le dirigeant rwandais a acquis sur l'échiquier africain une envergure telle que nul n'ose l'embarrasser pour juste contenter les Congolais. Tous ont conscience que nous vivons une ère d'injustice auxquelles les États réagissent, non pas en fonction de la nature ou de la gravité des faits, mais en fonction du poids ou de l'importance de ceux qui les commettent ou les subissent. Plutôt que de s'agacer de l'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, Félix Tshisekedi devrait peut-être convaincre son peuple de ce que le chemin de l'honneur pour les Congolais est de défendre leur patrie. Au regard des enjeux, les Congolais seraient bien naïfs de croire que des sanctions suffiraient à dissuader Paul Kagame de soutenir le M23, que le ministre congolais de la communication lui-même qualifie de « pantin ».
Quand on suit comme vous le dossier, Jean-Baptiste, on peut se demander comment combattre un M23 dont les forces semblent plus aguerries que l'armée congolaise.
Peut-être en redoublant d'efforts, de détermination et de sérieux, que le Rwanda, pays de 14 millions d'habitants, tienne en respect la RDC et ses 102 millions d'âmes est une anomalie, et que les rebelles du M23, même soutenus par les quelques 33 000 hommes de l'armée rwandaise, parviennent à mettre en difficulté l'armée de RDC et ses 134 000 hommes, est une autre preuve des insuffisances d'un leadership systématiquement défaillant, dont Félix Tshisekedi n'est que l'impuissant héritier. Mobutu Sese Seko ne se souciait que de sa sécurité personnelle et sa tristement célèbre division spéciale présidentielle, plus prompte à massacrer les étudiants sans défense qu'à défendre la patrie, a été incapable de lui sauver la mise lorsqu'en 1997, Laurent Désiré Kabila, porté par les troupes rwandaises et ougandaises, l'a renversé. Mais cette chute de Mobutu partait d'une faute politique. Comme partout où des nationaux vont chercher des mercenaires ou des armées étrangères pour conquérir le pouvoir ou le conserver. D'ailleurs, lorsque, n'en pouvant plus de la tutelle de ses parrains rwandais ou ougandais, Kabila a voulu s'en émanciper, il a eu droit à une suite de petites guerres, un assassinat, puis des générations spontanées de rébellion dont le M23 n'est que l'ultime succès d'année. Et chaque fois, les dirigeants ont appelé au secours des voisins qui se sont révélés être de gloutons prédateurs, trop heureux d'avoir table ouverte au festin du sous-sol congolais.
Jean-Baptiste, vous êtes éditorialiste, mais est-ce que ça n'est quand même pas un peu cruel de suggérer que les prédateurs ont été conviés par les Congolais eux-mêmes ?
Toute l'Afrique crierait à l'impérialisme si des Chinois, des Français ou des Américains s'introduisaient dans tel pays africain pour extraire les minerais de son sous-sol sans autre forme de procès. Que l'Afrique se mure dans le silence pendant que d'autres nations africaines pillent impunément la RDC scandalise d'autant que d'authentiques chantres de la souveraineté africaine justifieront leur coupable cupidité par l'incapacité des leaders congolais à faire le bonheur de leur peuple en dépit de toutes ses richesses. En RDC, les guerres sont aussi juteuses pour les prédateurs qu'elles sont sanglantes pour le peuple. Et la fâcheuse tendance de nombre de dirigeants politiques congolais à confisquer personnellement une part de la richesse nationale n'est au fond qu'une autre guerre des politiciens contre leur propre peuple. D'où la perplexité des Congolais lorsqu'ils entendent ces mêmes dirigeants dénoncer le pillage de leur richesse par tel ou tel voisin. Pour convaincre de la sincérité de leur révolte, il ne reste plus à ces politiciens qu'un sursaut de probité dans la gestion de la part qui échappe aux étrangers. Ainsi, leurs concitoyens pourraient un jour dire que les prédateurs nationaux, eux au moins, savaient voler avec empathie.
La semaine de Jean-Baptiste Placa à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr et nos applications. À 12h55, pile temps universel, 4 soldates israéliennes ont été libérées ce matin après plus de 15 mois de captivité dans la bande de Gaza. Israël, de son côté, a donné la liberté à 200 Palestiniens qui étaient retenus jusque-là dans ces prisons. Des Palestiniens qui sont en train d'arriver à l'heure où je vous parle à Ramallah. Et puis le British Museum a annoncé la fermeture de plusieurs de ses galeries après la mise hors service de ses systèmes informatiques par un ex-contractuel qui visiblement n'a pas digéré d'avoir été licencié la semaine dernière. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est chaque samedi, un mot, une histoire.
Je trouve que c'est un mot très riche qui a quand même aussi sa part de violence. Ce qu'il connote d'abord comme sonorité et comme image, je trouve qu'effectivement ça pourrait être le début d'un roman.
C'est la marraine de la 9e édition des Nuits de la Lecture. Maëlys de Kerangal a écrit de nombreux romans, parmi lesquels Naissance d'un pont ou encore Réparer les vivants. Le dernier, Jour de ressac, se déroule comme c'est souvent le cas dans son œuvre dans la ville du Havre, une ville où elle a grandi. Fille et petite fille de marin au long cours, elle a nourri tout un imaginaire autour de la mer et pour cet épisode, elle a choisi de me parler d'un mot qui fasse écho à ses lectures d'enfance.
Un mot, une histoire. Lucie Bouteloup.
Moi, j'avais envie de vous parler du mot sirène. D'abord parce que je pense que c'est un mot qui veut dire plusieurs choses et plusieurs choses intéressantes. Et cette espèce de polysémie, je la trouve riche. C'est évidemment le nom d'une créature fabuleuse, mais c'est aussi le nom d'un bruit qui annonce un danger, ou en tout cas qui sonne comme une alerte. Et par ailleurs, il y a cette idée du chant des sirènes qui est un peu comme un piège. C'est aussi un aperçu sur une histoire mythologique. Enfin, je trouve que c'est un mot très riche qui a quand même aussi sa part de violence.
Est-ce que ce sont des créatures qui ont bercé votre enfance, puisqu'on sait que vous venez du Havre?
Oui, c'est aussi pour ça. Il se trouve que c'est une créature, la sirène, qui est très, très importante en plus pour moi, parce que, en dehors du fait que j'ai vécu en bord de mer, dans une famille où elle est très liée à la question de la navigation, les contes d'Andersen ont été très centraux quand j'étais petite. Et c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu et relu. Et cette histoire de la petite sirène m'a très longtemps fascinée. Avec sa nature évidemment aquatique, inquiétante, des mondes sous-marins, etc. C'est-à-dire qu'Andersen, il y a une étrangeté. Et j'avais senti une forme peut-être de promotion que l'on puisse m'offrir à lire des histoires plus complexes.
Comment est-ce que vous pourriez décrire ce mot, sirène?
Par exemple, moi je le vois plutôt d'un vert bleuté et jaune également. Mais surtout, il commence par ce son très aigu que donne la première syllabe. Et au fond, le E muet de la fin le prolonge. Je trouve que c'est un mot aussi qui contient sa portée et éventuellement sa puissance imaginaire avec ce début un peu sifflant. Et puis cette fin qui vibre avec une vibration plus longue et quelque chose qui se perd un peu dans l'atmosphère en fait. C'est un mot qui dans sa matérialité sonore, qui dans sa texture, nous invite quand même à tendre l'oreille en fait.
Selon le dictionnaire Le Robert, le mot sirène désigne un être fabuleux à tête et torse de femme avec un corps d'oiseau ou une queue de poisson qui passait pour attirer par la douceur de son chant les navigateurs sur les écueils. C'est aussi un puissant appareil sonore destiné à produire un signal.
C'était un mot, une histoire.
Et Lucie Bouteloup s'entretient avec Maïlys de Carangal, marraine de la 9e édition des Nuits de la Lecture, édition dédiée au patrimoine dans la littérature. Elle se déroule en France, mais aussi dans le monde, tout ce week-end. Profitez-en. Fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Cécile Périllard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. 30 secondes de pause, pas plus, et le retour de l'info sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Salifou Boubé, enseignant en philosophie pour la dialectique de l'appartenance et de la distanciation ou le cousinage à plaisanterie. Cette pratique chère à l'Afrique de l'Ouest nous fera réfléchir et voyager du Niger au Mali en passant par la Bretagne. Compris, cousin ?
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur rfi.fr.